Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour, dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais vous parler de quelque chose qui nous inquiète tous, à savoir la guerre, et telle qu'on nous le présente avec les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Alors est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses? C'est l'objet de ma chronique. En Ukraine et en Russie, donc on nous donne des informations et il y a peut-être moyen de rééquilibrer un petit peu les choses puisqu'elles sont particulièrement orientées. Donc c'est ce que je vais essayer de vous faire en vous donnant un certain nombre d'éléments que vous n'avez probablement pas. Alors ça va pas s'arranger puisque l'Europe vient de décider de supprimer finalement la diffusion de la chaîne RT, qui est une chaîne russe, et également d'interdire la diffusion de l'agence de presse Sputnik, ce qui veut dire que vous n'aurez plus qu'un seul son de cloche. Vous l'aviez déjà largement d'ailleurs, ce seul son de cloche, mais ça va pas s'arranger, ça s'appelle la censure, et c'est en place, mais c'est une censure, on nous l'explique pour votre bien. Alors, par précaution, je tiens à rappeler que la guerre est la pire des choses, c'est évidemment mon point de vue, qu'elle soit ou pas en Ukraine ou ailleurs, elle doit être toujours dénoncée. Elle fait des morts, elle engendre de multiples souffrances, et elle a aussi ses conséquences en France, d'abord sur les prix, là on nous promet des inflations fortes dans de nombreux domaines, sur les sacrifices que l'on va nous demander d'accepter. On ne connaît pas encore l'ampleur de ces sacrifices, mais c'est le principe d'une guerre. Et donc, il faut s'attendre à ce qu'on nous donne des choses acceptées dans le domaine. Alors, pour trouver une issue, il faut d'abord comprendre. Et pour comprendre, il faut connaître les volontés des uns et des autres. C'est ce que je vais essayer de faire rapidement. Alors, je vais passer très vite sur le personnage Poutine qui est détestable, puisque ça, tout le monde le sait, tout le monde le dit, on nous le rabâche à longueur de journée. Il n'est donc pas utile d'y revenir. Mais qu'en est-il des dirigeants ukrainiens? Alors ça, on nous en parle moins. Qu'en est-il des dirigeants polonais, turcs, qui sont donc membres de l'OTAN et qui commencent finalement à ceinturer cette Russie qui ne veut précisément pas être ceinturée? Alors pourquoi occulter l'essentiel des informations, la présence de l'OTAN à la frontière russe, ce qui précisément, en tout cas si on écoute Poutine, c'est ce qu'il ne veut pas tolérer. Alors pour l'instant l'OTAN n'est pas officiellement en Ukraine, mais c'est bien, si on a bien compris en tout cas, ce qu'il dénonce depuis des mois, ce qu'il ne veut pas accepter. Alors première rectification, si l'on peut dire, la guerre n'a pas véritablement commencé ces jours-ci en février 2022. C'est un mensonge par omission car la guerre à l'est de l'Ukraine a commencé en 2014 sans que cela n'offusque particulièrement nombre d'humanistes en phase de réveil. Si je le dis, c'est parce que les Ukrainiens eux-mêmes disent que la guerre a commencé en 2014 et peut-être qu'on aurait pu aussi nous-mêmes se réveiller pour aider à trouver des solutions dans le domaine. C'est une première interrogation qui aide aussi à comprendre le reste. Alors, plusieurs choses derrière. Pourquoi Poutine parle-t-il de dénazification par rapport aux nazis? La formule est forte. Eh bien, tout simplement parce qu'en Ukraine, les néo-nazis sont très présents. Pour sortir la République ukrainienne de l'URSS en son temps, dans les années 90, on a fait monter en puissance le nationalisme nazi qui a été engraissé, qui a été dopé pour servir de levier. On a retrouvé d'ailleurs ce même type de stratégie avec les intégristes religieux qu'on a également dopé dans de nombreux dans de nombreuses parties du monde, en Tchétchénie, en Syrie, en Afghanistan, de façon à aider au basculement d'un certain nombre de régimes. Alors, en Ukraine, on a eu le parti Svoboda, officiellement antisémite, officiellement raciste, homophobe, russophobe, j'en passe et des meilleurs. D'ailleurs, son drapeau, c'est la croix nazie. Donc, c'est assez simple à comprendre quand on sait ça. Alors là, depuis peu, ils en parlent plus de leur drapeau, ils montrent plus puisqu'on leur a demandé de se refaire une virginité en termes d'image. Mais, pour autant, les extrémistes de droite sont bien là et ils sont en partie au pouvoir. Alors pour faire disparaître les milices néo-nazis, bien le gouvernement a trouvé un truc assez extraordinaire. Il les a tout simplement intégrés dans la gendarmerie ukrainienne. Et oui, vous avez bien entendu, sous prétexte donc de les faire disparaître par l'intégration, les milices néo-nazis ont été intégrées dans la gendarmerie. Il fallait oser l'inventer et ça a été fait. Aujourd'hui, il n'y a pas officiellement de ministre néo-nazi au gouvernement, mais il y en a eu encore dans les années 2014 et suivantes. Vous voyez que ce n'est pas si loin. Ils se sont refait une image et la plupart d'entre eux aujourd'hui s'intitulent ultra-libéraux. Alors ultra-libéraux, ultra-droite, moi j'ai du mal à faire l'indistinction et donc on est toujours sur ce terreau-là. Alors quand je parle de terreau, eh bien évidemment, ça aide à comprendre la suite puisqu'on a encore aujourd'hui, entre autres, des structures paramilitaires néo-nazies qui combattent depuis des années dans le Donbass. Le Donbass, cette partie à l'est de l'Ukraine qui pose donc d'énormes problèmes et qui est en guerre depuis des années. Donc quand Poutine parle de dénazification, bien sûr, il force le trait, on est d'accord là-dessus. En tout cas, je suis d'accord avec moi-même. Mais pour autant, il n'a pas complètement tort. C'est là où je voulais en arriver. Il parle aussi de génocide dans la partie, bien sûr, russophone et russophile de l'Ukraine. C'est là où vivent des gens qui disent qu'ils sont russes. Ils sont pas pro-russes, ils disent qu'ils sont russes. Et Poutine parle de génocide. Alors, il faut y regarder, évidemment, de plus près. Selon la définition officielle de l'ONU, c'est pas la mienne, la destruction de tout ou partie d'un groupe national est un génocide. Or, l'interdiction de parler sa langue natale, le russe, dans le Donbass, c'est une imposition de l'Ukraine, correspond à cette définition. Il y a eu aussi de nombreux massacres qui ont fait peu d'écho en France. Donc là encore, sur ce terme de génocide, il force le trait, mais néanmoins, on n'est pas non plus complètement éloigné de la réalité. Alors sur le poids de l'histoire, c'est aussi important de le voir puisque en fait, on nous présente l'Ukraine comme un pays finalement qui aurait toujours existé et quand on y regarde de plus près, les frontières ont constamment bougé et je dirais la propriété de l'Ukraine à différents pays finalement a également énormément évolué. Géographiquement, le périmètre de l'Ukraine, finalement, a bougé en tout temps. Au XIVe siècle, le territoire ukrainien n'existe pas. Il est divisé entre la Pologne et la Lituanie, qui ont toute la partie nord, et les Turcs tatars, qui ont toute la partie sud. Au XVIIe siècle, ça change, et les trois quarts de l'actuelle Ukraine sont alors russes. Et le reste, le quart qui reste, est autrichien, et cela jusqu'en 1917, donc c'est pas très vieux. C'est seulement à partir du milieu du 19e siècle que la culture ukrainienne va se développer et va prendre son essor. Donc il y a un siècle et demi environ qu'on a vu monter cette volonté d'identité de culture ukrainienne. Il n'est donc pas exact de raisonner comme si l'Ukraine avait toujours existé et comme on nous la présente aujourd'hui. Cette présentation erronée vise à prétendre qu'il serait inadmissible de rediscuter des territoires et de l'autodétermination des peuples. C'est là où je voulais en arriver. Finalement, on voit que les choses ont beaucoup bougé. Elles ont aussi beaucoup bougé pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque la majorité de la population s'est rangée vers l'Allemagne nazie. On nous dit aujourd'hui, une partie de la population oublie quand même de nous dire que c'était l'essentiel. Nombre d'Ukrainiens d'ailleurs étaient utilisés dans l'extermination des Juifs, les gardiens des camps de concentration aussi, parce qu'ils étaient considérés comme politiquement sûrs, car ils étaient contre l'URSS. Voilà pourquoi on retrouve aujourd'hui un terreau aussi nauséabond. Alors sur la Russie, on a vu, je viens de le dire, qu'elle a longtemps été sur le territoire ukrainien comme étant partie intégrante de la Russie. C'est tellement vrai que Kiev était considéré comme une grande ville russe. Et le russe, était la langue dominante. Donc on voit que les choses sont pas si tranchées dans ce domaine. Alors ces rapides repères historiques montrent qu'il ne faut pas raisonner de façon aussi simpliste, en tout cas en termes d'histoire. Mon dernier exemple, bien c'est la Crimée. C'est la Crimée qui a été russe jusque dans les années 52 et qui est devenue ukrainienne après cette date. Aujourd'hui, bien sûr, ça a rechangé, mais si je donne cet exemple-là, c'est pour montrer que les choses n'étaient pas si intangibles et historiquement pas si claires. Alors j'en viens à la question de l'OTAN, qui est une question essentielle, mais complètement, on peut dire, censurée des grands médias. On fait des émissions complètes pour expliquer la crise en Ukraine, on parle pas du tout de l'OTAN, c'est assez extraordinaire. Alors l'OTAN, historiquement, ce qu'on appelle aussi l'Alliance Atlantique, est née en 1949 pour la guerre froide. En 1966, De Gaulle décide de quitter le commandement intégré de l'OTAN après avoir fait le constat que l'OTAN ne défend pas ses membres. En effet, l'OTAN n'a pas aidé la France pour la guerre d'Indochine, c'est ce constat que fait De Gaulle, et ne l'a pas non plus aidé pour la guerre d'Algérie. Voilà le constat qu'il fait, et donc il décide de changer et de sortir de l'OTAN. Dans les années 90, le bloc de l'Est s'écroule, mais l'OTAN demeure, et va même coloniser la Roumanie, la Pologne, la Bulgarie, et d'autres pays d'Europe centrale, comme la Lituanie, etc. En 2009, Sarkozy décide que la France réintègre l'OTAN. Comme le disait pourtant un peu plus tard le président de l'Assemblée nationale en 2013, les États-Unis n'ont pas d'alliés, ils n'ont que des vassaux. Et pourquoi il dit ça en 2013? C'est parce qu'à cette époque, on s'aperçoit que finalement, les États-Unis espionnent régulièrement les communications de l'Élysée. Donc, cette réaction bien légitime de dire que les États-Unis n'ont pas d'alliés, n'ont que des vassaux. Et d'ailleurs, ça se vérifie pas seulement avec cette histoire de 2013. Alors, on peut dire aussi que la spécialité des USA, c'est la guerre loin de ses frontières. On nous refait aujourd'hui le coup de la guerre en Irak. On nous a déjà expliqué, il n'y a pas longtemps, que la Corée du Nord menaçait les USA, que les USA devaient, via l'OTAN, intervenir en Yougoslavie. Ça a été un véritable désastre à tout point de vue, humain d'abord, mais aussi politique. Aujourd'hui, la Yougoslavie, c'est je ne sais combien de pays différents, et c'est quand même très compliqué de pouvoir avoir une politique sociale dans l'intérêt des peuples dans ce domaine-là. En Afghanistan aussi, on a laissé un désastre complet. En Syrie, c'est le cas en ce moment, etc. Autant de pays qui, géographiquement parlant, ne peuvent menacer les USA. Et si je dis ça, c'est que se pose bien sûr la question de la proximité. Alors la question de la proximité par rapport à la sécurité des peuples, on en a quand même un exemple en 1962 avec ce qu'on a appelé la crise des missiles à Cuba. À cette époque, donc les Russes avec Cuba décident d'installer à Cuba des missiles de croisière. La situation est à l'époque jugée intolérable par les États-Unis, puisque Cuba n'est pas très loin des côtes US et menace d'une guerre mondiale si les missiles ne sont pas retirés. C'est pour ça que je fais ce parallèle, puisqu'à l'époque, donc, les missiles ont été retirés. L'argument, c'est qu'ils étaient trop proches des États-Unis. Et à l'époque, les commentateurs nous ont expliqué qu'il était normal pour la sécurité des États-Unis de ne pas tolérer de missiles à proximité. Il n'était pas question de souveraineté du peuple cubain. Je fais volontairement le parallèle. À l'époque, on nous expliquait que les missiles n'avaient rien à faire à Cuba. Alors, comme je l'ai dit en introduction, cette chronique peut paraître partisane, mais c'est un peu volontaire de ma part. J'ai voulu parler de ce qui n'est pas dit dans les grands médias. Elle a que pour seul objectif de rééquilibrer l'information. Il y a effectivement des solutions pour la paix. J'en citerai quelques-unes. La première, par exemple, mais c'est ce qu'on a fait récemment avec la Nouvelle-Calédonie, nous en France, eh bien, c'est tout simplement organiser un référendum d'autodétermination dans les régions dites séparatistes, là où il y a problème. Ça fait 8 ans qu'il y a la guerre dans cette région et la guerre ne règle rien, bien au contraire. D'ailleurs, quelques dirigeants ukrainiens disent que finalement, ce serait peut-être la meilleure façon de se débarrasser d'une région qui est tout à fait ingérable de toute façon et qui pollue finalement la gestion de l'ensemble de l'Ukraine. Alors, des solutions pour la paix, il y en a aussi. Par exemple, accepter l'idée que l'OTAN n'a rien à faire à la frontière russe et passer par un traité de non-agression. C'est pas très compliqué. On a su le faire à d'autres époques. Pour la France, quitter l'OTAN serait finalement le moyen, d'être véritablement indépendant. Je rappelle qu'on a quitté l'OTAN pendant plusieurs décennies et que c'est seulement Sarkozy qui nous y a fait re-rentrer. Cela nous permettrait aujourd'hui d'ailleurs de ne pas être discrédité sur la scène internationale et de pouvoir, par exemple, être l'interlocuteur indépendant qui pourrait aider à négocier la paix, ce qui est tout à fait impossible à partir du moment où on se place dans une position partisane. Voilà ce que je voulais vous dire, je le répète encore, la guerre est une chose abominable, il faut absolument obtenir la paix, mais pour obtenir la paix, il faut aussi comprendre ce qui se passe, comprendre ce que veulent les uns et ce que veulent les autres. Et je vous dis à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Cueillus.
C'est le public de jardin de ma tante.
Oh, pas vrai.
Ah bah si. Et mon patron, il change de costume 2 fois par jour. Oh.